tell you the story of the journey down the road not taken. This is the way the world ends. This is the way the world ends. These are the sordid tales of how it all came crashing down.
This is an epic Los Angeles crime saga.
And you're researching your role?
Yes. It takes place in the near future.
Scientists are saying the future is going to be far more futuristic than they originally predicted.
You're gonna have to wear a bulletproof vest.
Let's talk about your phone. What's it really about?
Don't look so scared, Mr. Santeros.
The future is just like you imagine.
Someone must be hiding it.
It's like the nervous breakdown of the century.
Nothing that a killer, a porn star, and a tattoo parlor can't handle.
It is time for a surgical strike.
Pimps don't commit suicide. It all ends tonight.
Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7. Et donc, comme... le film l'indique, donc la fin du monde ne se termine pas par un chuchotement mais par un bang. On va parler peut-être l'une des plus grandes, peut-être un film que l'on peut qualifier de carnage absolu, de voyage immense, en même temps de plus grand film malade, de désastre cannois et en même temps d'un grand film d'une certaine manière ovni tout court. On va parler donc non seulement du réalisateur Richard Kelly, mais surtout de son deuxième film, Southland Tales, film qu'il a fait à l'âge de 31 ans. Et on va voir à quel point ça a été en partie un merdier avant, après et peut-être pendant même, d'une certaine manière. Et on va montrer à quel point aussi ce film, en fait, mérite d'avoir, d'une certaine manière, son statut culte, non pas seulement par son histoire autour du film. Et avec moi, j'ai Cyril et Jérôme. Comment vous allez ?
Très bien.
Eh ben très bien, un peu nerveux, hein. Il s'agit de parler d'un film important dans sa vie de fanboy, tu vois.
C'est vrai qu'en fait c'est un film d'une certaine manière très important parce qu'en fait ça permet quand même de revenir sur un point que le cinéma quand même c'est un univers à géométrie variable qui est soumis forcément aux modes et à la mauvaise foi et d'une certaine manière, c'est ce que l'on représente aussi également.
Je crois qu'il dit
aussi,
ça pour moi.
Et aussi d'une certaine manière, non pas seulement, mais d'une certaine manière aussi forcément Southland Tales représente d'une certaine manière tout ce qu'il a subi et tout ce qu'il a finalement aussi d'une certaine manière provoqué par la suite.
Ouais, et puis c'est un film qui cristallise les passions. Hein. Les antis sont quand même assez virulents dessus et puis les fanboys sont vraiment ne peuvent pas admettre qu'on puisse dire du mal de ce film. Mmh.
C'est un film, on peut l'appeler ça, c'est vraiment une escale, c'est un terrain miné en fait le film. Ouais. Pour parler de ce film, c'est un vrai terrain miné, pas seulement par l'histoire, mais aussi forcément par ce que ça l'a voulu représenter à travers ses différentes représentations cinématographiques, parce que c'est vrai que c'est peut-être certainement l'un des meilleurs rôles de quasiment tout le casting en plus quand on y pense, et à la fois c'est un espèce de film absolument incroyable de... Sur l'univers totalement de Los Angeles, mais pas que. Oui. Pas que.
Mais pas que.
Donc, c'est vrai qu'on va revenir tout d'abord, avant de parler vraiment du film, de la conception. Alors, comme je l'ai dit, donc, Richard Kelly l'a fait à l'âge de 31 ans, mais c'est tout d'abord, finalement, ce que l'on peut appeler un rêve terminé comme un cauchemar, ça on en parlera juste après. Il faut quand même revenir tout d'abord sur le cas donc, Denis Darko, film précédent qu'il a fait à l'âge donc de 26 ans. C'est très
Qu'est-ce
jeune.
Qu'est-ce qu'on a
hein,
fait de notre vie?
Moi, je faisais pas grand-chose hein, à 26 ans. En tout cas, je faisais pas Denis Darko. Non, je le regardais, mais je le faisais pas. Quoi.
Voilà. Et ben lui, il a fait donc Denis Darko. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, donc Denis Darko a été présenté pour la première fois à Sundance, qui a eu un accueil que l'on peut qualifier donc de glacial. Ouais. Et donc par la suite, Richard Kelly avait, en attendant notamment donc la conception, que le projet de Denis Darko aboutisse, avait déjà fait donc un premier scénario, une première partie de ce qu'on en appelle donc Southland Tales. Alors Southland Tales, pour la petite simple description, qu'est-ce que cela signifie ? En fait, ça signifie donc la partie basse, la partie sud de la Californie, donc la région de Los Angeles. Southland Tales, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, la forme géographique de ce territoire ressemble un peu à comme une espèce de queue de renard, en fait.
Voilà. Ok, très bien. Ça nous éclaire pas sur le film.
Pas sur non, mais on va revenir après.
Sur Denis Darko, ce qui est assez étonnant aujourd'hui, c'est de se rendre compte effectivement qu'il était très mal reçu au début, alors que toute la pop culture s'est allègrement nourrie de ce film les années d'après.
Un an après, le film est sorti, peu de temps après, donc est sorti en DTV. Et en fait, grâce au succès
du bouche à oreille,
vidéoclub, de tout, parce que le film, à sa première sortie, n'avait même pas rapporté $1 million sur un budget de 6. Ouais. Là, le film donc obtient son statut culte d'abord par la vidéo, retourne au cinéma par la suite, et donc obtient ce statut absolument.
Et puis le marché du DVD, hein. À peine implanté à l'époque où Donnie Darko sort, donc c'est vraiment un film de samedi soir, de vidéoclub. Mmh. Il a ce côté un peu, cette saveur de film indé américain. Et puis c'est un film en termes de pop culture, ne serait-ce que par sa BO. Il y a tellement de, morceaux cultes dans ce film, qui sont devenus cultes par ce film.
Et donc, entre-temps, avec donc, le succès de Donnie Darko, et avant même, entre les deux, entre cette période-là, en fait, il a donc Richard Kelly, il s'est aussi un petit peu, comment dire, spécialisé dans l'écriture. Notamment, donc, il a fait le scénario de Domino. De Tony Scott. Mmh. Et aussi, donc, son Southland Tales va évoluer au fur et à mesure. Car sa première version datait donc de juin 2001. Et il y a eu un petit truc en septembre 2001 qui lui a dit « Ah, bon, on va peut-être pas faire que de la comédie pure, on va passer par autre chose. »
Le monde meurt par un bunk et pas par un... au début, c'était juste l'histoire d'une troupe de théâtre, d'une troupe de comédiens qui n'arrive pas à percer, qui décide de créer un faux meurtre raciste pour faire chanter une star du cinéma qui allait filmer le faux crime, quoi. Et après, de fil en aiguille, de relation en relation, la cassette allait fuiter sur Internet. Ouais. Et dans ce premier scénario, Southland Tales, c'est le nom du site Internet sur lequel la vidéo du faux meurtre fuite, générant des émeutes à la... Enfin, des émeutes comme il y en a assez souvent aux États-Unis, comme on en a connu par la suite. Ouais. Et puis, avec le premier... Ouais, avec le 11 septembre, il a mis des éléments de contexte politique dans son film qui a totalement fait exploser la structure... Et redonner un double, voire un triple rôle à tous les personnages.
C'est ça.
Tous les personnages sont déjà là dans le film. Simplement, là, il leur donne, on va dire, une ampleur ou un rôle politique supplémentaire qui ajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion et qui fait que le film a été très mal aimé.
Bah, je pense que Kelly a eu il a un peu subi les choses parce que il y a trop de choses importantes qui se sont passées trop vite par rapport au 11 septembre et du coup il s'est rendu compte que tout ça s'imbriquait plus ou moins avec le script qu'il a écrit et on est à l'époque où Denis Darko commence à récupérer son statut de film un peu culte. Donc Kelly prend la confiance et il se dit bon bah voilà je vais faire ma grosse fresque ambitieuse etc. Et puis ensuite on va y revenir mais les fonds de production ont été plus ou moins récoltés grâce notamment à Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson qui a donc avait accepté de jouer dans ce projet-là.
Alors il faut savoir sous son vrai nom.
Sous son vrai nom parce que donc il avait toujours le diminutif The Rock. Donc il faut le revenir là-dessus, c'est que donc Dwayne Johnson est à la base un catcheur, donc il a fait d'ailleurs c'est la troisième génération de catcheurs. Il a donc été notamment champion de la WWE. Il a connu le firmament dans cette fédération-là. Puis forcément, on va dire d'une certaine manière par son charisme et comme d'anciens d'autres catcheurs, donc il a voulu se lancer dans le cinéma, comme l'a été Hulk Hogan, Jesse Ventura, etc. Roddy Piper également. Et finalement, il va commencer par faire quelques petits films d'action au départ, mais il va se tourner par la suite à faire des films un peu plus différents, un peu plus auteurisque d'une certaine manière. Et notamment, se trouve le projet Southland Tales, Richard Kelly en plus, qui donc avait encore l'aura de Denis Darko derrière lui. D'ailleurs, une aura finalement qui va un peu le bouffer d'une certaine manière, par l'idée de retravailler son script comme on l'a vu donc pour Southland Tales. Et en fait, ouais, donc ce projet va se faire à peu près pour une vingtaine de millions de dollars à la base.
C'est ça, ouais, un peu moins, ouais.
Et donc, c'est pour ainsi dire, en fait, c'est assez intéressant parce que il va donc, grâce à cette implication de Dwayne Johnson, en fait, il va vraiment aussi retravailler tous les personnages et le casting en lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un film, c'est un film totalement, je trouve, inclassable, même par la filmographie de chaque acteur dedans, parce que donc on va retrouver donc Dwayne Johnson, qui est dans un rôle à contre-courant, on va retrouver Sarah Michelle Gellar, qui à l'époque était déjà dans un rôle à contre-courant, on retrouve Sean William Scott, donc le Stifler d'American Pie
ouais,
qui
bah
oui. est dans un rôle à contre-courant. On retrouve donc un certain Justin Timberlake qui commence à peine sa carrière, mais qui est vraiment dans un, comment dire, dans un rôle très à contre-courant aussi,
ouais,
d'une certaine manière.
Presque une parodie de lui-même.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il est déjà au sommet dans sa carrière musicale de pop star. Mais c'est un peu un mix des deux. Mais Kelly s'est rendu compte que en fait le gros tout ce qui va cristalliser le film, c'est en fait la pop culture, quoi. Comme beaucoup d'autres films un peu de cette même époque, le casting va vraiment être central par rapport à tout ce qui va être dit et même par rapport aux thématiques qui vont être implémentées
derrière.
Ouais, c'est totalement central, et je pense que d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est peut-être les meilleurs rôles qu'ils vont connaître en fait dans leur carrière. Et donc le tournage a donc eu lieu donc de août à octobre 2005, donc en l'espace donc d'à peine 3 mois.
C'est très court.
Et Richard Kelly voulait absolument tourner en Californie parce que forcément l'histoire se déroule en Californie. Il voulait les paysages californiens. Il aurait pu tourner ailleurs pour moins cher, c'est chose qu'il n'a pas voulu. Et grand bien lui fasse, parce que finalement, on retrouve tous les lieux emblématiques de Los Angeles, notamment Venice Beach, et les coins qu'il a l'habitude de retrouver, on va dire, sur les périodes d'été, de vacances et compagnie. Donc on voit vraiment des gros plans, des paysages de cette région-là. Et c'est vrai que c'est un tournage qui a été très très dense, et par exemple il y a un cas qui est vraiment exceptionnel dans ce film, donc c'est le personnage donc de Justin Timberlake, pilote à Abilene, il faut quand même le signaler, donc il a quand même un de ses débuts de carrière, il a quand même un emploi du temps extrêmement chargé. Il avait donc qu'un seul jour de tournage de disponible. Normalement, ça devait durer quelques heures. Ça a duré donc 16 heures. Et ils ont donc notamment improvisé pas mal de choses, notamment cette fameuse séquence donc chorégraphiée sur The Killers, dans une salle d'arcade.
Exact.
Donc, ils ont travaillé cette séquence, ils l'ont chorégraphiée et tout, en utilisant donc la musique de The Killers. Chose qu'il n'avait pas encore prévue dans le budget. Et en fait, donc Richard Kelly, pour la petite histoire, donc, va monter cette séquence, la présenter au groupe afin de pouvoir obtenir les droits. Et le groupe a dit oui, c'est bon. Même un petit ristourne s'il le faut, mais pas trop non plus, parce qu'on a les agents derrière. Mais voilà.
Mais une grande partie du film a été improvisée comme cela. Chaque acteur a apporté sa propre touche, et puis tous les autres acteurs du casting sont des acteurs de toute façon qui sont habitués à improviser. Donc ça se voit beaucoup.
D'une certaine manière, c'est vrai que Kelly a déjà utilisé ce casting en fait vraiment d'une certaine manière. Il va donner beaucoup de liberté à ses acteurs principaux, que ce soit Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar ou encore Sean William Scott. Et c'est vrai qu'en fait tous les rôles secondaires ont eu d'une certaine manière, comme tu disais, donc beaucoup d'improvisation. Mais c'est pas étonnant en fait d'une certaine manière, quand on voit notamment par exemple des personnages comme Abby Poehler, on a beaucoup d'acteurs du Saturday Night Live, donc des comiques qui ont aussi d'une certaine manière l'habitude de travailler sur l'improvisation, qui va renforcer en fait cet aspect-là, quoi.
Ouais, mais c'est incroyable quand même ce processus, parce que par exemple tu parles de Justin Timberlake qui avait qu'une seule journée, le personnage il est quand même assez central.
Oui, c'est fou.
Le film il est raconté par sa voix off à lui, donc je veux dire, tu peux pas trop te permettre de loser, quoi. Et puis sur The Killer, le fait de ne pas avoir les droits de la musique, c'est quand même tu vas dans l'inconnu, quoi. Après je sais pas comment Kelly avait réfléchi à cette séquence, parce qu'on y reviendra peut-être quand on parlera plus profondément du film, mais il y a une interaction, moi, que j'ai toujours trouvé incroyable dans ce film, entre les musiques et, ce que ça raconte, et les éléments narratifs du film. Justin Timberlake joue un vétéran de la guerre du Vietnam, il me semble, ou de la guerre.
C'est Moyen-Orient, donc je ne sais plus exactement.
Ouais, Moyen-Orient, Vietnam, je ne sais plus.
Enfin, ça doit être en Irak, je pense que c'était en Irak.
Bref, il joue c'est à Fallujah, donc ça doit être c'est en Irak.
Ouais, bon, bah, il joue un vétéran de la guerre, en tout cas, et l'accent est mis sur ce fameux I get soul, but I'm not a soldier, qui va avoir du sens par rapport à ce qui se passe dans la séquence, au fait qu'il est sous l'emprise d'un produit étrange, mystérieux.
Le fluide karma.
Le fluide karma, ouais, qui est un élément toujours un petit peu mystique, hein, même si on a vu le film 40 fois, quoi. Donc voilà, il y a tout ce côté-là, et puis le fait de donner de l'improvisation à des comédiens qui sont pas censés être des géants de l'acteur studio ni rien. The Rock, il a son petit tic comme ça qui a été improvisé par lui-même et qu'Eli a adoré, qui est assez série Z, quoi, finalement.
Totalement. Ça donne un côté très, très maladroit, très bouffon.
Ouais,
des scènes qui, par ailleurs, devraient être sérieuses, à des moments de tension.
Ouais, c'est ça.
Et ça donne un côté très décalé.
Mais en fait,
durant le tournage, il avait d'ailleurs dit aux acteurs, en fait, de vraiment garder, d'être ancré dans leur rôle principal. Enfin, vraiment d'être ancré dans leur personnage, de pas être trop ancré ou se poser des questions sur comment je dois faire ci, comment je dois faire ça non plus. C'est vraiment pour les laisser, en fait, à fond dans un certain côté premier degré. Ouais. Pour renforcer le côté satirique par la suite.
Ouais, de toute façon, c'est ça, comme ils comprenaient rien au scénario, ça devrait être facile pour eux. Hein.
Ouais, mais voilà, le n'importe quoi côtoie toujours le sérieux à premier degré.
Et grandiose. C'est vrai qu'on n'était pas habitué à l'époque. C'est vraiment, je crois, le seul film qui fait ça, avec peut-être de temps en temps, dans quelques scènes, des films d'action.
Ouais.
Je pense au Cinquième Élément, par exemple. Il y a des scènes qui sont très drôles, presque goofy comme cela, par l'exubérance des personnages. Mais lui, c'est le premier à se dire, bon, bah, voilà, tout le film, ça va être ça.
C'est un grand écart permanent.
Je prends des acteurs qui vont être bons là-dedans, quoi. Ouais.
Et c'est un grand écart tellement permanent qu'on peut se dire, en fait, il va se déchirer l'aine, parce qu'en fait, c'est un film tellement inclassable et non terminatant, qui finalement se trouve à la surprise générale, donc à Cannes en 2006.
J'allais dire, le public cannois entre Dardenne et Ken Loach n'était peut-être pas prêt aux mimiques de The Rock, quoi.
Et surtout qu'en plus, donc, il faut revenir sur le contexte. Donc, comme je le disais, donc c'est un film non terminé. À la base, il devait finir les SFX. À la base, c'est vraiment pour le coup une blague, en fait, de la part de Kelly, qui disait, donc, je voulais que j'ai envoyé cette proposition, donc, au Festival de Cannes, comme beaucoup de films, hein, il faut le signaler, hein, le Festival de Cannes reçoit des milliers de demandes pour participer au festival, et il ne s'attendait pas à être sélectionné. Et donc arrive la sélection officielle.
En compétition officielle.
En
quoi,
compétition, parce que, une fois de plus.
Marché du film, ok, enfin tu vois, tout ça,
oui, c'est ça.
Pourquoi pas, mais compétition officielle.
Compétition directe. Le problème, c'est que donc il fallait donc finir le montage à temps, donc demander aux équipes des effets spéciaux, à un moment donné, d'arrêter de faire ça, parce que le timing est extrêmement serré pour le finir à Cannes. Donc, en fait, comme le disait d'ailleurs Kelly lui-même, ce film, en fait, c'est à la fois ce qui s'est passé, en fait, à Cannes, c'est à la fois quelque chose de magnifique et quelque chose de malédiction, d'une certaine manière. C'est un honneur, en fait, d'avoir été sélectionné à Cannes, mais aussi une malédiction, parce que finalement, ça a plombé le film en lui-même.
Ça a ruiné sa réputation avant même qu'il sorte.
Et c'est aussi ce qui lui a donné cette aura de film maudit.
En plus, il faut revenir là-dessus, la projection, donc... arrive, je crois, quasiment au début du festival. La projection est absolument désastreuse.
Moi, j'ai des amis qui étaient. Amis qui étaient, ils m'ont dit wow.
Avec les effets spéciaux pas terminés, les sous-titres décalés en pleine séance, ça a provoqué donc une réunion d'urgence de film avec les producteurs, une conférence de presse, donc c'est fait quasiment sous forme d'exécution publique pour Kelly, Gellar et Dwayne Johnson. Et même le fait donc que la production donc va insister sur le fait que donc la copie doit être totalement revue. Donc Southland Tales, tel que l'on connaît en sortie vidéo, donc est un film totalement remonté et même soi-disant malade.
Ouais, et puis repris avec des étudiants, me semble-t-il, des étudiants bénévoles.
Alors ça, on va revenir un petit peu après pour la copie.
Mais voilà, mais en tout cas, juste pour finir là-dessus, le fait que sa sélection à Cannes, pour moi, c'est une malédiction, oui et non. Parce que pour beaucoup de gens dont je fais partie, le fait que Richard Kelly, que j'idolâtrais déjà avec Donnie Darko, qui est un film pondu de nulle part à 26 ans, instantanément culte, etc., il se retrouve à Cannes, Genre dans la cour des grands auteurs.
Il se retrouve entre Babel, le labyrinthe de Pan, Volver, ouais, Le Vent se lève.
Voilà, quand même, quoi. Et avec un film qu'on sait inclassable, on sait que c'est un fiasco, donc évidemment, ça éveille l'intérêt et la curiosité et l'excitation encore plus. Et puis ensuite, bah, il y a ce truc du. Le film ne sort pas, quoi. Il n'est pas distribué, il faut attendre plusieurs années.
Et pour la petite histoire, en plus, à Cannes en 2006, c'était vraiment le sale temps pour les Américains. Car donc, on a tout d'abord le blockbuster, Da Vinci Code qui a présenté au qui aille à l'unanimité.
Bah ouais, mais
on a le Sofia Coppola qui est hué pour Marie-Antoinette.
Ah ouais, non, mais attends.
Et on a le Sunset de Richard Kelly.
Ouais, mais alors que voilà, tu vois, je veux dire,
c'est trois films différents, ouais, hein, mais.
Les deux premiers n'ont pas un centième de l'intérêt du dernier, quoi. Mm-hmm. Mais en tout cas, voilà, pour moi, en tout cas, l'attente interminable, c'est le film que j'ai le plus attendu de ma vie.
Ouais, hein, ouais.
C'est celui-là.
C'est simple, en fait. Et... je me rappelle encore avoir vu donc, les présentations cannoises de Sunset à la télévision. On était donc en 2006 et pendant un an il n'y avait plus aucun bruit de ce film
et plus de news et rien, et du coup plus l'attente continuait, plus le film devenait culte pour moi, enfin, ça devenait un chef-d'œuvre, plus les jours passaient, plus ça devenait un chef-d'œuvre. Et il aurait pu être encore plus bordélique et encore plus labyrinthique et encore plus lynchien que ça. Il n'y avait pas de souci, quoi.
Il aurait pu ne jamais sortir, il n'y aurait pas eu de souci.
Là, il y aurait eu un souci. Mais je veux dire, j'étais prêt à lui accorder ma passion, tu vois, et mon temps. Et... ouais, mais t'es un ennemi, Cyril. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Moi, je l'ai vu plus tard. Je pense que je l'ai vu à une époque où je voulais que les films aient du sens.
Ouais,
avant
ouais.
tout. Et du coup, Southland Tales, il est compliqué pour ça.
Oui.
Et c'est vrai qu'il a pris la mesure que j'ai compris maintenant, hein, c'est que, avec Internet, avec le 11 septembre, on était tous la gueule dans les écrans.
Ouais.
On a vu les écrans d'information en temps réel. On a vu les écrans d'ordinateur sur lesquels on était pour avoir grappillé des infos. C'est-à-dire que des images qui font sens ou des images qui sont juste les images qu'on attend pour raconter une histoire, on en a eu plein et d'une certaine manière, on en a été malade.
On est d'accord.
Et donc, il s'est dit, bon, ben, voilà, le cinéma doit proposer autre chose et beaucoup ont été, après le 11 septembre, à proposer des images fortes. Mmh. Ils ont vraiment tous été impactés. Ils ont été nombreux à penser le cinéma, l'image cinématographique différente. Donc, lui, il propose ça, mais avant qu'on soit prêt, quoi.
Ouais, alors entièrement d'accord, mais du coup, c'est ce qui. Il a un côté méta aussi à ce niveau-là, parce que les écrans dans les écrans, et puis le transmédia avec les BD, on va y revenir.
Et sites internet et tout.
Les sites internet, mais c'est un peu comme Matrix finalement. Quand Matrix est sorti, ben, t'avais les premiers CD-ROM dans CineLive qui te permettaient d'avoir un code pour aller ouvrir une porte sur un vieux site en 3D dégueulasse pour avoir un bout d'effet 3D en plus. Enfin, c'était de la folie, quoi.
Mais Matrix est cohérent.
Ouais, mais Matrix,
en tant que film.
Ouais, Matrix, c'est cohérent, mais il est finalement... Après, moi, je suis à l'inverse de toi. Moi, c'était une époque où je commençais à découvrir Lynch, donc j'avais 16-17 ans. Mulholland Drive m'avait mis... je m'étais encore pas remis de Mulholland Drive et de Lost Highway. Et là, il y a ce Southland Tales qui débarque d'un auteur que j'avais déjà envie de m'approprier. Forcément, moi, tous les voyants étaient au vert, j'étais prêt, quoi.
Parlons du film. Alors,
pas obligé, mec. Pas obligé.
C'est pas ce qu'on est en train de faire.
Sur le papier, Soixantel, c'est un pot pourri assez démentiel. Alors, pour résumer, ça va être très long. États-Unis, donc nouveau millénaire. 5 ans après les attentats du World Trade Center, le Texas est frappé par 2 bombes nucléaires qui illuminent la fête nationale. Donc, le début d'une interminable troisième guerre mondiale contre un Moyen-Orient sans visage, tandis que l'Amérique est bouclée à double tour par un gouvernement pétrifié qui ferme les frontières entre les États et réinvente donc le patriotisme. Gonflé à bloc, le parti républicain donc enfante ce qu'on appelle le USAident, donc un espèce de Big Brother 2.0 qui va donc contrôler absolument tous les moyens de communication, donc notamment sur les rues, les citoyens, etc. etc.
Fais des pauses.
Filme les toilettes.
2008. Alors que la Californie est menace... La Californie est vraiment sous le... pas loin du bordel, on va dire ça comme ça.
Ouais, du Patriot Act et compagnie.
C'est ça, on a une espèce de cellule.
Un projet de loi justement pour alléger le Patriot Act installe la surveillance continue et permanente du peuple américain.
L'acte 69. Donc, une cellule néo-marxiste underground monte un coup d'État pour truquer les élections et révéler la véritable nature d'un gouvernement fasciste. En coulisses, donc, la révolution se prépare, mais sur la place publique, donc, la Cité des Anges, désormais déchue, accueille donc en fanfare une espèce de sombre mafia allemande qui a miraculeusement résolu une inévitable crise d'énergie grâce à ce que l'on appelle le fluid karma, une solution alternative qui tire sa force des entrailles de la planète, laquelle provoque en retour un dysfonctionnement dans le tissu du temps et de l'espace.
Ouais.
je sais pas quoi dire de
la
plus.
Fin, la fin du monde, c'est pas un whisper, hein, c'est l'explosion de notre cerveau.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que comme je disais sur le papier, donc c'est vraiment
déjà,
ça.
C'est déjà beaucoup trop dense.
C'est trop. C'est
beaucoup
trop
dense.
C'est simple. Et à l'image, en fait, Calif semble en fait nous pousser encore plus loin dans un espèce de Alice au Pays des Merveilles, dans un trip avec l'expérience totalement inclassable, qui à la fois donc assez belle et à la fois terrible d'une certaine manière, mais ça montre en fait, et ça représente à la fois, je trouve, ce qu'a voulu mettre Kelly dans son film en fait, ça représente à la fois les craintes, les passions, les peurs de ce monde en fait post 11 septembre, et ça se ressent en fait quasiment dans tout le film.
Non mais là disons que t'as mis en avant, même si c'est dense et complexe, des éléments d'une dystopie mais qui est avec des couches qui n'en finissent pas, et là en plus là quasiment tout ce que t'as évoqué c'est des éléments de contexte qui sont mis en place dans les 30 premières minutes.
C'est-à-dire que tout ça est vrai mais tout ça n'est pas l'objet du film.
Ouais, carrément
c'est
pas
compliqué.
Quoi. Carrément pas, c'est juste ce qui permet au film de se dire je suis dans cette ambiance là. Je ressens les choses comme ça parce qu'il y a aussi la musique qui va jouer, il y a les décors, il y a les personnages, il y a l'acting, il y a tout en fait.
Et chaque personnage a sa propre orientation avec une vraie conclusion.
Déjà, il y a trop de personnages, il y en a infiniment trop et ils ont chacun deux, voire trois, voire quatre rôles. Donc, mais bon, c'est ce qui fait que le film est un chef-d'œuvre, hein, on est d'accord. Continuons.
Je vais juste citer en fait une phrase donc de Richard Kelly à propos de sa synthèse. Donc, il cite, sa synthèse doit être vue comme une évocation comique de l'apocalypse, simplement parce qu'il est censé se passer dans la grande Los Angeles. Là-dessus, faites-moi confiance, si la fin du monde nous pend vraiment au nez, apparemment c'est ce que croient 59% des chrétiens fondamentalistes, alors elle se produira d'abord à Los Angeles.
Alors ça c'est drôle, mais ce qui est moins drôle c'est que beaucoup de choses qu'il met dans son film on les a eues après quoi. Mais c'est vrai qu'il y a Californie a l'air d'être un endroit très bizarre où on a Schwarzenegger qui est devenu
gouverneur,
qui à défaut de pouvoir devenir président, où il y a un petit monde où la politique, le cinéma, le spectacle et puis des gens tout nus sur la plage se côtoient. J'ai l'impression comme se côtoie n'importe quel contenu sur Internet, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'hiérarchie, sans qu'il y ait de différenciation entre les choses. Quoi. On a eu ça avec Sarkozy, nous, quand Sarkozy court sur la plage.
On a eu une évocation, c'était notre Californie.
Il n'avait pas de masque de cheval, tu vois.
Non, donc, mais...
c'est incomplet, c'est par rapport à Sons Land Tales.
C'est pour ça que on n'est pas encore dans Sons Land Tales. Mais on a eu Elon Musk, on a eu Kim Kardashian...
Voilà, en fait, le film met ça en avant. Et moi, je trouve que, alors, par rapport à l'énergie qui a été découverte par cette société,
le
fluide karma qui est censé être un mouvement perpétuel, mais qui altère.
Ouais, c'est un fluide qui court autour de la planète, comme une sorte de kundalini de la planète.
C'est issu des océans, du mouvement perpétuel des océans, bref, mais ça altère un petit peu la rotation de la planète et ça change un peu, mais de manière quand même perceptible, les comportements humains. Et en fait, pour moi, c'est un peu ce qui se passe depuis quand même le point zéro, enfin l'an zéro de ce qui est raconté l'an
septembre,
et aussi l'ère Internet, c'est que les comportements ont été un peu changés, mais disons qu'à travers le personnage de Sarah Michelle Gellar, donc de Chris Tannau, qui est une influenceuse avant l'heure, qui va vendre des sodas, qui va vendre des parfums, qui va vendre des
au-delà d'être une simple actrice porno, c'est
et qui est en plus une actrice porno, mais tout ça, c'est pour moi, c'est hyper actuel, quoi. Ouais. Et ça l'aide plus quand je regarde le film en 2024 que quand je l'ai vu pour la première fois en 2009. Ouais. Et en fait, t'as plein de petites choses comme ça qui vont être des mini changements, mais qui ont une importance finalement fondamentale. Et tout l'aspect fantastique du film se joue là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des éléments tellement gigantesques à échelle moléculaire et planétaire, etc., mais qui découlent de petits changements de comportement et de société. Là-dessus, le film, encore une fois, il est trop frêle, quoi. 2h20, c'est un petit corps pour autant de thématiques. Il aurait fallu une série. Il me fait penser à Mulholland Drive, en fait, ce film. En 2h20, il y a de quoi poser une série complète. C'est presque un pilote en fait d'une série en 15 épisodes. Quoi.
Bah, c'est vrai qu'en fait, on est face à un objet cinématographique difforme, d'une certaine manière. C'est une œuvre fauve, et c'est vrai que forcément, quand on pense à, aux différentes sous-couches, parce que c'est un film qui, en fait, qui est, c'est un millefeuille, en fait, ce bordel. C'est un millefeuille monstrueux, en fait, pour comprendre tous les personnages, les tenants et aboutissants. Et en plus, ils ont vraiment chacun leur propre voix et ils se retrouvent d'une certaine manière au même endroit, c'est-à-dire l'apocalypse. Ouais. Que, en fait, ça donne vraiment tout cet aspect d'une représentation de ce que voulait mettre Kelly sur sa fascination aussi d'une certaine manière l'apocalypse et du coup je vais le citer d'ailleurs là-dessus donc il le disait donc à l'origine du film il existe Les Hommes Crus, un poème de T.S. Eliot dont la chute en fait est un phénomène de pessimisme qui donc commence par c'est ainsi que finit le monde, non pas par un boom mais par un gémissement. En réalité, la chute de ce poème a été modifiée à des fins satiriques. Dans les mois qui ont suivi la première mouture du scénario, il y a eu le 11 septembre, puis le Patriot Act, et puis la guerre en Irak. Je me suis donc ajouté une à une des couches de sous-texte politique dans le script et à y mêler des influences de Philip K. Dick, Kurt Vonnegut, Andy Warhol ou encore celle du film noir. En 4 ans, le film a évolué et s'est peu à peu transformé en quelque chose de plus substantiel et de plus profond.
Ouais. Le fait que le fluide karma ait été inventé par des Allemands, c'est très proche de Philip K. Dick. Ouais. De toute façon, toute la science de pointe aux États-Unis pour Dick, c'est les nazis qui sont derrière, c'est nécessairement quelque chose de sombre. Sauf que là, c'est encore plus délirant, puisque j'ai oublié le nom de ce mec, Rosencrantz, un truc comme ça.
Le baron Westphalen.
Westphalen. Il est descendant de la veuve de Marx.
Jenny von Westphalen.
Et il est un des chefs avec des membres de l'armée, des néo-marxistes.
Oui, voilà, c'est un sous-traitant néo-marxiste.
C'est des boss de jeux vidéo, les mecs, ils ont des gueules. C'est Hideo Kojima, quoi, tu vois. C'est vraiment, t'as l'impression que tu vas devoir en affronter un. Et il y a autre chose qui est dingue, c'est que tous ces personnages-là, moi, j'ai l'impression à chaque fois de les voir dans un Lynch. Je me dis, ah, mais elle est dans Mulholland Drive. Ah, mais lui, il est dans Lost Highway. Mais en fait, non.
Non, non.
Et
le baron est très proche du personnage bizarre de Lost Highway.
Ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, il y a cette aura très, 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 encore une fois, lynchienne. Et par rapport à ce que tu disais sur le chuchotement et le bang, et puis le côté un petit peu pop culture et aussi le côté mélancolique. Ça se sent pleinement dans le dernier acte du film qui se passe dans le Zeppelin, où t'as des scènes qui vont être très belles, très lentes, très atmosphériques, et le côté éminemment série Z de la résolution finale. Et en fait, tout ça donne quelque chose de ça donne un mélange très très particulier au film et qui chez moi a toujours extrêmement bien fonctionné, quoi.
Ouais, la scène de danse dans le Zeppelin, elle est magnifique.
Et puis t'as ce plan séquence aussi qui ressemble énormément au plan séquence de Donnie Darko quand ils arrivent dans le lycée, où t'as sur du, alors je sais plus si c'est sur du Black Rebel Motorcycle Club ou autre, mais t'as l'arrivée dans le Zeppelin où
Zeppelin, c'est méga, c'est Black Rebel.
C'est ça,
BRMC.
C'est Hall, ouais. Et du coup tu revois un petit peu tous les personnages qui ont été importants dans
tout le plan séquence.
Voilà, c'est ça. Et tu dis ah oui c'est vrai. Alors maintenant c'est maintenant que ça se passe, tout se rassemble.
Il y a un peu cette conclusion.
J'adore cette manière de faire des plans séquences que Kelly a finalement un peu mis au point en seulement 2 films.
Ouais.
Et qui ça fait 20 ans et ça marche toujours aussi bien, quoi. Et même le plan séquence de Donnie Darko, il marche toujours aussi bien avec. Puis il y a l'utilisation de la musique, encore une fois, manière de rendre la culture populaire noble finalement, parce que tu lui donnes un fond de discours. T'as ce morceau de Jane's Addiction qui s'appelle 3 Days, et en fait t'as un des personnages qui balance une punchline extrêmement sérieuse, mais qui reprend juste un bout de lyrics de 3 Days. Et tu te dis, waouh, mais ça, je connais, c'est dans un morceau. Et puis ensuite, plus tard, 20 minutes plus tard, t'entends le morceau comme si c'était un peu une prédiction.
C'est ça. Mais quasiment ça tout est relié aussi avec ce morceau-là, parce que finalement, le film se déroule en 3 jours.
En 3 jours.
L'apocalypse, donc, a lieu dans 3 jours.
Exactement.
Il y a vraiment ces conséquences-là, quoi.
Et Wave of Mutilation des Pixies.
Qui est carrément le nom d'un chapitrage aussi.
Qui est le nom d'un chapitre entier. T'as vraiment tout ce truc-là qui te fait dire, voilà, il a rien oublié. Mais en fait, il a tellement rien oublié que il a juste posé des couches, il a juste mis des tonnes de beurre sur le truc, et puis après voilà, c'est advienne que pourra. Et bon bah
Bah, comme il le disait, en fait, donc, je le cite, donc, mon espoir était de m'inscrire dans la lignée des films comme Brazil ou Blade Runner. Bien sûr, ce n'est ni aussi futuriste que Blade Runner, ni aussi élaboré en termes de design que Brazil, ouais. Mais mon intention était de m'approcher d'eux sur le plan de l'attention du détail et du son apporté au décor et à la photographie.
Mmh. Bah oui, oui, évidemment. Bon, après, le film a des lacunes, hein, visuellement, c'est pas un... C'est pas le plus grand film des années 2000.
Je trouve que ça lui rajoute du charme, justement. Mais
moi aussi, je suis d'accord.
C'est en raccord avec ces acteurs qu'il prend à contre-pied.
Exactement, oui.
Qui sont un peu à côté, pas à côté de leur pompe, mais à côté du rôle qu'on attendrait d'eux.
Et il y a même certains plans où tu dis, oh, t'as l'impression qu'en fait, c'est juste des plans qui servent de substitution à avancer l'intrigue ou autre. Mmh. Mais par exemple, un des meilleurs plans que je trouve du film aussi, cette espèce de petit soldat que tu sais, en fait, t'appuies en remontant génial. Comme ça, qui est au sol et qui arrive sur Venice Beach. Il y a toute une représentation, en fait, de ce qu'allait devenir et ce qu'allait être le film. Quoi,
moi, c'est
fait,
quasiment un manifeste. Hein, ce plan, c'est voilà ce que ça va être. À la fois, on va s'éclater, on va s'amuser.
Exactement,
ça va être une espèce de grand jeu de
ça
rôle.
Va être un
il va y
jouet,
avoir un
en
baron, il va y avoir le maître du donjon, il va y avoir des pièces d'échiquier qui vont se balader à droite à gauche. Ça va être un jouet, on va s'amuser. Mais en même temps, on va dire des trucs sérieux.
Bah surtout mais qu'avec la photographie qui est sombre, noire, est vraiment la nuit,
et
c'est proche.
Et sans hiérarchiser, quoi. C'est-à-dire que ça, il y a à la fois des choses très sérieuses, mais qui sont dites avec humour, et les passages drôles sont assumés, les passages sérieux sont assumés, là où Marvel, aujourd'hui, fait une scène tout à fait sérieuse et grandiloquente, mais la détruit tout de suite en disant « on n'est pas dupe de nos effets », ce qui empêche leur film d'être drôle et ce qui les empêche d'être tout à fait touchants. On a Everything Everywhere All At Once qui, au contraire, lui, assume le côté... l'histoire très réduite d'une mère qui essaye à la fois de sauver sa fille de la dépression et de sauver son entreprise. Et ça part dans tous les sens, et c'est un super voyage. Mais l'histoire est très, très limitée. Oui, t'as sans doute pas aimé, mais parce qu'en fait, ça reprend tout ce qu'a fait Sofantel.
Moi, j'ai pas aimé comme
critique.
Moi, j'ai pas aimé ce film comme certaines personnes n'ont dû pas aimer Sofantel. Moi, je me suis cassé au bout d'une heure, j'en pouvais plus, tu vois.
Ouais, parce que, en fait, je pense que ce qui manque à ce film-là, c'est la critique. C'est-à-dire qu'il vient 20 ans après Sofantel. Et Sofantel, en fait, il avait une distance par rapport à ce qu'il faisait.
Ouais.
Il était pas tout à fait en accord avec le monde qui était en train de se poser.
Et il y a des moments de silence aussi, il y a des moments de calme dans Southland Tales, ce que l'autre film n'a absolument pas. Il est hystérique. Quoi.
Ça, c'est la patte de fabrique des réalisateurs. Hein. Daniels ont toujours fait un film assez hystérique.
Je connais pas très bien ces réalisateurs, c'est juste qu'au bout d'un moment...
Mais c'était pour dire que je trouve que le cœur du film, alors c'est pas tout ce grand résumé qui fait peur, c'est juste l'histoire d'un vétéran de la guerre qui n'arrive pas à se pardonner d'avoir versé son meilleur
exactement
parce que,
là, exactement
parce que c'est, tout la fin du film
fois,
c'est ça en
à
fait
à la fois il porte c'est... la excuse-moi à oui. chaque fois et en même temps il porte la culpabilité de ce qu'il a fait mais ceux qui sont responsables de ce qu'il a fait ne la portent pas donc d'une certaine manière c'est comment faire en sorte à ce que les États-Unis dans le grand délire qui a amené ces drames intimes comment faire comprendre aux États-Unis qu'ils sont aussi responsables c'est ce qu'il fait aussi d'une certaine manière avec Donnie Darko à une échelle beaucoup plus petite avec The Box.
Totalement, mais
il est hanté par la culpabilité.
Donnie Darko et Sutherland Tales, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Quoi.
Oui.
Mais encore une fois, tu vois, cette petite question individuelle que tu viens de soulever, finalement, est-ce qu'elle ne mérite pas d'être posée dans un énorme bordel cauchemardesque, un peu comme finalement le film de Adrian Lyne, là, comment il s'appelle, le truc tout cauchemardesque. L'échelle de Jacob, tout est un délire fiévreux presque, et c'est un peu la sensation que t'as. Moi, la première fois que j'ai vu Sutherland Tales, il a généré une migraine, quoi. Donc,
c'est normal.
J'essayais de tout comprendre, et erreur de débutant, quoi.
C'est bien que tu parles de Donnie Darko, parce qu'en fait, finalement, tout comme Donnie Darko, ce qu'il fait en fait Richard Kelly dans ce film, c'est que le fantastique en fait sert de catalyseur pour développer ses personnages.
Ouais.
Là ici en fait on a notamment le thème de la schizophrénie, donc on a donc par exemple cette séquence avec Sean William Scott qui joue donc Roland Taverner ou Ronald Taverner, je sais plus, et son reflet en fait qui diffère de quelques secondes quand il est devant le miroir. On a aussi l'histoire de la faille temporelle, donc qui est un élément déclencheur de cette duplicité, donc on a Ronald d'un côté et Boxer et Jerry Cocaine de l'autre. En fait ça tout simplement pour, comme ça l'explique plus ou moins, donc ça finit par sectionner l'âme de l'être. Et en fait, on a vraiment le parcours donc d'un être pour retrouver sa véritable image, et forcément, ça peut comme je l'ai dit auparavant, notamment en citant Richard Kelly, donc peut rappeler donc Brasil de Terry Gilliam.
Ouais, ou même l'armée des 12 singes, hein, oui. Parce qu'il est, tu sens qu'il est passionné par la boucle temporelle et puis le fait de revenir au point de départ. Et donc là-dessus, je sais que j'ai vu et entendu Kelly citer La Jetée régulièrement.
C'est pas étonnant.
C'est absolument pas étonnant, mais de toute façon, les influences de Richard Kelly, elles sont très très visibles. C'est ça aussi, moi, que j'aimais bien au début quand j'avais 15-20 ans, quoi. J'aimais bien voir les influences, j'aimais bien voir des influences visibles. Et effectivement, quand Lynch est une influence aussi lisible, mais en même temps, c'est pour moi un des seuls films qui est vraiment héritier de Lynch, parce qu'il est un peu. C'est pas qu'il essaye de faire une histoire aussi alambiquée, mais c'est qu'il s'y prend un peu d'une manière hasardeuse et. Et casse-gueule, et puis finalement, ça fonctionne, quoi.
Enfin, ouais.
Et puis même la musique originale de Moby, elle a un côté un peu drone comme ça, qui ressemble, moi ça me fait penser un peu à Badalamenti sur certaines
ambiances. Il y a toujours une ambiance très pesante, en fait, dans tout ça. C'est pas pour rien qu'en fait, il y a énormément de brume que l'on voit dans ce film, des brumes naturelles, voire fausses, et notamment par le biais de certains titrages en fait de films, on voit toujours espèce de brume un peu présente et vraiment mystérieuse, parce que ça renforce en fait tout le côté mystique que veut faire Kelly dedans, quoi.
Ouais, et puis avec des effets visuels un peu ratés, un peu kitsch, mais qui ont leur, enfin je sais pas, tout ça donne une aura vraiment insaisissable au film, et que moi je suis prêt à.
Mais disons-le très clairement, le côté kitsch en termes d'SFX n'était pas totalement prévu.
Ouais,
parce que pour un peu terminer là-dessus, en fait, donc sa synthèse en fait, donc va rester dans les annales comme un film qui va décrocher l'un des pires scores critiques de l'histoire du Festival de Cannes. Il va donc provoquer la chute de Richard Kelly, il va tomber de son piédestal en termes d'auteur. Il va suivre donc dans les cachots des espoirs ratés d'Hollywood, malheureusement. D'ailleurs, il va quand même essayer de recoller les morceaux, donc pour s'assurer une sortie en salle. Alors, la sortie en salle américaine. Donc, le film va être coupé d'une vingtaine de minutes par rapport au montage cannois. Il va avoir l'aide notamment de Sony, qui va quand même lui donner 1 million pour finir les effets spéciaux. Et la version cinéma donc est accueillie avec beaucoup de problèmes, notamment pas du tout vraiment d'envie ni d'espoir général lors du Fantastic Fest 16 mois plus tard par rapport à Cannes ou au Texas. Il va décrocher une sortie confidentielle aux États-Unis dans la foulée, et le bilan, c'est donc 400 000 dollars de recettes pour un film d'environ 17 millions.
Aïe, ouais. Ah oui, je savais pas qu'il avait fait aussi peu de... Oh.
D'abord, repousser la date de sortie française calée au 20 décembre 2006 va être... purement et simplement annulé, et il sortira finalement en DVD en mars 2008, soit près de 2 ans après la sortie.
Aux États-Unis ou en France ?
En France. En France.
2008, d'accord. Ouais. Ok. Wow.
Voilà, ça cale.
Dans la liste en général, j'imagine.
Non.
Non.
pas la mienne et pas celle de tous les gens qui ont croisé ma route.
Mais du coup, la projection en fait désastreuse cannoise, en fait, le film a donc été totalement rejeté. Il a été remonté. Il a eu il a été sacrifié. En fait, il a été sacrifié sur l'autel, disons-le très clairement, quoi. Et finalement, en fait. C'est triste à dire d'une certaine manière, parce qu'en fait, au lieu d'introniser comme un réalisateur à suivre, en fait, sa synthèse va provoquer la chute de Richard Kelly.
L'explosion en plein vol, finalement.
Cannes, c'était pas le lieu, quoi.
Non,
film qui a besoin de bande dessinée, internet pour être compréhensible.
Comme le disait.
Sa place n'est à la rigueur même pas dans une salle de cinéma,
bien
quoi.
Sûr.
Ça, l'échec a marqué beaucoup les acteurs du film. Même Dwayne Johnson, qui a quand même d'une certaine manière su rebondir après par la suite.
Il a fait que des films d'action.
Mais il a fait des films d'action lambda. En fait, c'est malheureux parce qu'en fait, lui, ça lui a fait mal au cœur. Il le dit encore, ça lui a fait mal au cœur que le film ne marche pas.
Oui, parce qu'il y croyait. Il
y croyait beaucoup. Ouais. Il y croyait beaucoup. Il se dit, tiens, je vais peut-être me montrer en tant qu'acteur et pas en tant que simple star du film d'action. Finalement, par la suite, c'est ce qu'il va faire. Que du blockbuster. Sarah-Michel Gellar a une phrase très intéressante à propos de ce film. Quand elle en a parlé, quelques années après la sortie de sa synthèse, elle avait expliqué que oui, certes, Cannes, c'était un honneur, mais en fait, c'était pas le meilleur contexte pour sortir le film. C'est un film qui parle de la Californie, c'est un film qui parle des Américains. Or, on est très loin de cette culture-là à Cannes.
Ah bah oui, mais bon, après, je pense que la sélection à Cannes, c'était aussi pour un peu mettre un coup de pied. Enfin, j'en sais rien en vrai, mais.
Cannes, en fait, j'ai toujours eu l'impression qu'en fait, il y a toujours eu une certaine volonté de renouveler un peu leur, on va dire leur roster de réalisateurs. Mais ça n'a jamais marché. Quand on voit par exemple Guillermo del Toro avec le Labyrinthe de Pan, finalement, il n'apparaît qu'une seule fois.
Guillermo del Toro, il a déjà une certaine renommée.
C'est un réalisateur qui a un statut auteur. Il aurait pu être à Cannes constamment.
Ouais. Parce que Mimic était déjà sorti. Même les Chines du Diable étaient déjà sortis, je crois. Donc ça va. Mais Richard Kelly, il débarque avec un petit film.
J'ai pris le contexte de Del Toro parce qu'il sortait la même année que sa synthèse, le Labyrinthe de Pan.
Le Labyrinthe de Pan, oui. Bon, qui est un très bon film aussi, mais ça joue pas du tout dans avec les mêmes codes, ni avec la même grammaire cinématographique finalement. Mais du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi utiliser un slot compétition officielle, quoi. À la limite, tu le mets hors compétition en mode film de fermeture quand il y a plus
ou
personne.
La quinzaine.
Mais la quinzaine ou le marché du film, ce que tu veux. Mais alors la compétition
officielle, le marché du film, ça peut être encore plus permissif, attention.
Ouais, je sais, mais disons qu'il a plus sa place dans un truc comme ça. Le film, il est déjà voué à être un peu boudé par 50% d'un public déjà averti, quoi. Donc là, effectivement,
ils ont dû y voir d'une certaine manière une nouvelle manière de faire les films, vouloir mettre la lumière dessus, même si c'est pour chier sur la gueule du réal.
Ouais, mais voilà, quand tu sors d'un Almodovar et d'un Ken Loach, c'est compliqué d'enchaîner avec Sosantes. Je sais pas quand il a été présenté.
Pour citer Kelly, en fait, d'une certaine manière, sur les conséquences de Cannes, en fait, comme il le dit, donc, tout le monde est ton meilleur ami quand tu entres en compétition à Cannes. Ça. Mais après, le film est grandement ridiculisé et soudain, le téléphone arrête de sonner.
Ouais. Après, il a dû avoir les miquettes quand il a monté les marches avec son équipe. Hein. Franchement, c'est quand même audacieux.
Et surtout voir les marches cannoises avec donc un ancien catcheur, une actrice qui à la base est connue pour la série télé et à peine avec les succès de Scooby-Doo, un acteur qui à la base est habitué à faire des comédies graveleuses comme American Pie.
C'est clair, des mecs du Saturday Night Live.
Oui, voilà.
Ouais, non, mais c'est Christophe Lambert. On n'a pas parlé de Christophe Lambert.
Bien sûr, Christophe Lambert.
Cri-cri national.
Le Christophe Lambert qui joue le marchand d'armes, qui à la base, le rôle a été donc donné à Oliver Stone. Et Oliver Stone, donc, par respect, a refusé ce rôle à Richard Kelly pour lui dire écoute, j'ai lu ton scénario, j'ai rien compris, donc je vais dire non.
Et puis moi, je fais Alexandre, et puis c'est une bouse. Quoi.
Ça, c'est autre chose. Il y a même d'autres réalisateurs qui apparaissent dedans. On retrouve notamment Eli Roth et même Kevin Smith.
Ouais, Eli Roth qui se fait shooter dans les toilettes, quoi.
Qui est un peu à l'image de sa filmographie, c'est
mais
ça.
Mais voilà, non, pas forcément, mais disons que ça lui va bien, ce côté un peu.
Crado.
Ouais, et puis caméo pour un petit projet comme ça. Franchement, c'est plutôt cool qu'il y ait ces personnes-là dans le casting aussi. Mais bon, voilà, après, moi, je suis curieux, je connais pas très bien non plus le cheminement de Richard Kelly, mais qu'il ait rebondi ensuite, enfin, rebondi, c'est un bien grand mot, mais avec The Box. Tu sens que c'est la dernière petite saillie. Ouais. Après, il a complètement disparu. Hein, et pourtant, il continue à bosser. Il est sur des scripts. Il est sur des.
Il a pas abandonné. Hein. Parce que c'est ça en fait, c'est que même si Southern Tales a quasiment ruiné la carrière de Richard Kelly, il a quand même fait un film en 2009. Donc The Box, qui est une adaptation d'une nouvelle de Richard Matheson.
Qui fait 4 pages et qui là aussi c'est un projet audacieux.
C'est un projet audacieux.
Il fait craquer les jointures. Il en fait un gros truc.
Et puis avec des fous.
Mais je pense qu'en fait c'est ça sa patte en fait à Richard Kelly, c'est qu'en fait il en fait toujours beaucoup trop.
Mais au bout d'un moment, ça effraie quoi.
Bah oui. Voilà.
Non, mais ça
effraie les producteurs forcément.
Ça je peux le comprendre, mais finalement pour le spectateur un peu. Tout est un peu bien qui finit bien, sauf le fait qu'on n'ait pas cette fameuse version cannoise et que les comics n'existent pas chez nous, etc. Mais,
c'est pas un mal.
Ouais, visiblement.
Non, c'est pas un mal. Ils sont très moches, ils apportent pas grand chose. Et je pense même que comprendre mieux les tenants et les aboutissants du film, ça le gâche un peu.
Ouais, j'imagine bien.
Trop en connaître le gâche.
C'est un peu comme la version longue de Denis Darko, j'ai attendu longtemps. Et quand je l'ai vu, j'ai fait.
Oh, c'est décevant.
C'est moins bien.
Et en fait, il y a des choses qui sont expliquées qui devraient pas l'être.
Et c'est ça le truc. En fait, du charme aussi.
Les choses sont montées dans un autre
ordre.
Avec d'autres musiques. Et en fait, c'est comme.
Un peu comme la version cannoise, en fait, d'une certaine manière, pour Sosantel, si j'ai bien compris. Ouais. Alors, qu'en est-il donc de cette version originale du film? Eh bien, il faut le savoir que la version cannoise, en fait, avec donc les effets spéciaux donc terminés, est donc sortie en 2022. Chez les éditeurs britanniques de Arrow. C'est les seuls en fait à l'avoir sorti. C'est donc un film qui est tout de même promis, donc on peut le dire, à une certaine renaissance par la suite, qui a tellement fait parler de lui en dehors et avant et après le passage à Cannes qu'en fait il a quand même ce statut en fait de film très
moi j'attends les
quasi culte.
J'attends les 20 ans
encore.
J'attends les 20 ans, mais je pense que SC Shadows ou je sais pas qui quelqu'un va se bouger à mon avis. Le film a une trop grande aura, il est trop important pour plein de gens. Il peut pas rester dans les limbes comme ça éternellement.
Surtout que c'est un film hors norme en fait.
Ah, totalement.
Ouais, et puis on n'a pas le montage final qu'envisageait Kelly. Ouais. Donc on a deux versions qui sont pas les bonnes entre guillemets. Ouais.
Et Kelly a toujours dit, il est un peu évasif dessus, mais il a toujours dit, c'est pas mort pour ma vraie director's cut de Southland Tales. Qu'en est-il ? Moi, j'attends le palier des 20 ans. Si en 2026, il n'y a rien, bon, je vais commencer à lâcher l'affaire, quoi. Mais
il faudrait qu'il ait un autre projet, quoi.
Il faudrait qu'il
fasse parler de lui, je pense. Hein, c'est le truc. Hein.
Ouais, avec son Corpus Christi, par exemple, qui est dans les tuyaux depuis 20 ans.
C'est ça, voilà, le problème avec Richard Kelly, c'est qu'en fait, il a des projets absolument dingues partout. On lui avait proposé notamment des idées de réalisation. Je crois qu'il a.
Il devait réaliser le film de Alex Proyas, là, avec Nicolas Cage. Comment il s'appelle ? Prédiction, je crois.
Prédiction. Notamment, il avait été choisi pour faire le film Prédiction. Finalement, ça ne s'est pas fait. Enfin, il a eu plein de projet comme ça, et finalement c'est dingue qu'en fait il a jamais eu cette reconnaissance ou même cette opportunité de pouvoir continuer par la suite.
Ouais, mais comme dit Cyril, hein, franchement, au bout d'un moment, moi je comprends aussi le point de vue.
Surtout si tous ces projets sont des projets délirants, quand on l'écoute en interview, ouais, j'ai plein de projets, mais ça va être massif.
En 2019, en fait, il avait annoncé que son prochain film, ça serait une adaptation d'un biopic sur Rod Sterling. Enfin, il y avait que des projets comme ça qui ont toujours été inaboutis. En fait.
Ouais, mais là encore, tu vois, le mec revient 3 ans après. Tu te dis, allez, ça y est, il se remet en selle. The Box, c'est aussi un film un peu malade, tu vois. C'est aussi un film un peu compliqué. C'est aussi un film un peu trop exigeant.
Et très personnel.
Hein. Ouais, très personnel.
On avait entendu qu'il voulait faire une suite à Denis Darko. Ça s'est fait sans lui. Il y a eu un espèce de préquel animé de Southland Tales qui était dans pour parler. Ça ne s'est toujours pas fait. En fait, c'est l'aboutissement, en fait, de la frustration avec, d'une certaine manière.
Après, ce qui est sûr, c'est que Southland Tales est son film fleuve, enfin, son film, son acmé,
c'est
quoi.
Son truc. Hein.
Son œuvre matricielle.
Ouais, c'est ça. Et c'est à partir de Southland Tales que la pyramide Richard Kelly doit s'envisager. Mais du coup, comment on reconsidère Denis Darko par rapport à Southland Tales? Comment on considère The Box par rapport à Southland Tales? Comment on considère les projets avortés? Comment on considère les projets non avortés? Tout part finalement de ce fiasco qu'a été Southland Tales. Parce qu'il symbolise énormément de choses qui sont aussi des difficultés de production même dans le cinéma américain d'action finalement. Parce que Sarah Michelle Gellar, elle sort de Buffy, The Rock, il sort de La Momie. Enfin, ça reste des gens du grand public et pas du tout accoutumés à ce genre
de
film.
C'est ça,
c'est
ça. Et surtout que le milieu de la production, il le connaît parce qu'il a déjà été également producteur. Il a produit notamment The Box. Après, il a fait quelques petites productions à côté, donc notamment un certain Orgueil et Préjugés Zombies. Mais ça, on va pas en parler par la suite.
Quoi.
Oui.
Sans déconner.
Oui.
Oh là là, quel enfer ce film.
Donc, c'est toujours forcément quelqu'un qu'on a envie de voir plus derrière la caméra que, on va dire, à l'écriture. Enfin, pas à l'écriture, mais au business ou à la production. Et forcément. C'est d'une certaine manière frustrant parce que quand on voit qu'il a fait donc Denis Darko à l'âge de 26 ans, quand on voit qu'il a fait 70 à l'âge de 30 ans, 31 ans, on s'attendait à voir par la suite, en fait, voir un immense réalisateur à l'âge de 35, 40 ans, quoi.
Ou pas sûr, quoi.
Faut qu'il se réinvente, quoi.
Et si maintenant Richard Kelly débarque avec soit un film extrêmement classique ou machin, est-ce que ce sera pas trop peu trop tard, ou est-ce qu'on n'est plus vraiment dans le mood pour se donner à fond sur ce genre de projet, ce genre d'œuvre? C'est aussi la marque d'une époque. Moi, c'est vraiment, j'avais 16 et 19 ans quand ces films-là sont sortis. J'étais ouvert pour ce genre de truc.
Mais de toute façon, après Ready Player One, les films référentiels, ils sont morts. Quoi. À partir du moment où c'est été récupéré par une énorme machine pour faire un truc dégueulasse,
c'est pour ça que je suis pas certain
tout,
de.
Il faut qu'il trouve autre chose ou qu'il fasse une série. Quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il embrasse les nouvelles formes de narration.
Ou alors il reste sur sa lancée et il fait comme finalement Lynch avec son Twin Peaks saison 3, où ça faisait 25 ans qu'on attendait le truc et 15 ans qu'on attendait une nouvelle réalisation de Lynch. Et c'est la renaissance dans la continuité et du coup Twin Peaks saison 3 est passionnant.
Ouais.
Et vu qu'il est dans la même finalement un peu dans la même
il est dans le même objectif finalement d'une certaine manière. Dans un entretien pour le Pittsburgh City Paper en novembre 2023, Kelly confirme que il y a peu de choses qu'il aime autant plus que construire un monde, en fait. Donc finalement, ces films sont des mondes. Et d'ailleurs, il considère ces trois films comme totalement inachevés. Mmh. Et surtout Southland Tales. Et donc, je le dis, je le cite, même si je me retrouve un jour dans une maison de retraite, terminer Southland Tales, c'est l'objectif de ma liste de choses à faire dans la vie.
Ouais.
J'ai dit un jour, en plaisantant, que je pourrais le faire avec des marionnettes. Il estime que chaque année qui passe, il semble que le bouton de la folie ait été tourné un peu plus vite depuis que nous avons fait ce film. Le monde en a en quelque sorte rattrapé le film.
Mmh. On est d'accord là-dessus. Hein.
Et puis c'est finalement quelque chose là aussi un peu de méta qui n'est pas sous contrôle de l'auteur et qui doit aussi à un moment donné laisser son film rester.
Il faut qu'il le laisse comme ça.
Rester.
Parce que c'est le fruit d'une grande improvisation collective.
Ouais. C'est ça, ouais.
Et dans ce film, il y a ce scénario, là, The Power,
qui
détermine tout ce qui se passe dans le film et qui détermine tout ce qui s'est passé dans la réalité. Je veux dire, on vit dans Southland Tales, il n'y a pas besoin de revenir dessus.
Et puis via, encore une fois, des éléments fantastiques et machin que j'adore. Mais moi, je dis souvent, quand on va à Gérardmer, si je vais à Gérardmer tous les ans, c'est dans l'espoir de retrouver un jour
un Denis Darko
bis, quoi.
Ouais.
Un film qui aura cet impact, ce truc, quoi.
Mais dur sont de trouver des réalisateurs aussi énigmatiques que cet homme-là, quoi. Et pour terminer un peu cette émission, en fait, je vais encore terminer par une citation de lui. Donc, je suis de ceux qui aiment aller de l'avant, en espérant qu'un jour les vannes s'ouvriront et que je me retrouverai dans une rivière qui coule enfin dans la direction que je souhaite.
Mmh. Il aime aller de l'avant, mais il veut refaire Southland Tales, quoi.
Ouais, mais
parce que pour lui, c'est inachevé.
Je suis pas sûr que si tout se passait bien ou que si tout s'était bien passé, le film aurait la même saveur.
Non,
quoi.
Non.
Les problèmes de production, c'est aussi ça alimente,
ça provoquait le charme du film.
Et ça alimente le bordel, le fait de le monter dans l'urgence et tout ça. Ça alimente le problème et ça donne quelque chose.
Il faut pas qu'il réfléchisse trop. Quand il réfléchit trop, il fait Denis Darko deuxième mouture et c'est décevant. Quoi.
Ce film-là qui s'appelle S. Darko, qui est absolument abominable, qui n'est pas de lui, mais bon, voilà, ça montre aussi que l'aspect unique d'un film vient des
conditions,
des conditions
de production,
et des obstacles et de ce qui s'est mal passé.
Et sa synthèse est la perfection absolue de cette représentation-là.
Tout à fait.
Merci Cyril, merci Jérôme pour cette émission.
On se termine
donc avec un morceau de The Killers et on reviendra donc la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao à tous.
Salut. I got soul, but I'm not a soldier. 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 Done.